Bon, la chronique en droit, évidemment, il sera question de la pandémie de la COVID-19 et de son impact qui est majeur sur les propriétaires d'entreprises, les gestionnaires qui tentent justement de gérer cette crise-là du mieux qu'ils le peuvent, mais on s'entend que c'est pas facile. Avec nous pour en parler, Maître Nadine Bigra de la firme d'avocats RPGL ici à Gatineau. Bonjour Nadine.
Bonjour Louis-Philippe.
Donc, je suppose que vous êtes bombardé de questions de la part des employeurs depuis quelques jours.
Oui, c'est certain, Louis-Philippe, que nos clients l'ont eu à déployer là, au cours des derniers jours, des mesures qui sont assez hors du commun en matière autant de santé et sécurité que pour mettre en place des plans de contingence pour assurer la continuité de leurs activités. Et ce qui complique encore plus les choses, ben, c'est qu'à la vitesse à laquelle la situation évolue, ben, les mesures qui sont prises une journée sont souvent à revoir le lendemain, malheureusement.
Ah, tout à fait. On le voit ici. Nous aussi, ça doit être la même chose chez vous, dans votre bureau. On a beaucoup parlé des mesures de prévention pour protéger les employés contre le coronavirus, mais encore faut-il qu'on ait des employés, et ça, c'est pas nécessairement évident présentement.
Oui, effectivement, Louis-Philippe, on voit là tous les impacts économiques de la crise, puis ben on entend les entrepreneurs dire que le ralentissement de leurs activités fait en sorte qu'évidemment, ben il y a peut-être plus assez de travail pour tous leurs employés. Donc on entend malheureusement de plus en plus parler de licenciement et de mise à pied chez bien des entreprises en ce moment.
Alors si on n'a pas le choix d'en arriver là comme employeur, comment on procède, Nadine?
Bien, premièrement, Louis-Philippe, je ne vais pas spéculer sur l'espoir de mesures qui pourraient être annoncées par le gouvernement, puis je vais tenter plutôt de me concentrer là, sur la marche à suivre actuelle, puis les règles en place à ce moment-ci. Par contre, c'est sûr que les choses évoluent vite. Hein. La preuve, c'est qu'on vient d'avoir des annonces aujourd'hui même qui confirmaient de l'aide additionnelle pour les PME puis les employés. Alors, c'est sûr que c'est important de consulter régulièrement les ressources disponibles pour aller chercher les mesures d'aide temporaires qui sont à votre disposition. Mais la première chose, c'est que la pandémie, c'est pas l'occasion de congédier des personnes problématiques dans votre organisation. Hein, si on fait ça, bien évidemment, on peut se retrouver avec des plaintes de congédiement déguisées, c'est-à-dire une plainte pour avoir utilisé un prétexte pour congédier un employé.
Oui.
Alors, il va falloir être capable de démontrer qu'il y avait effectivement plus de travail ou que la mise à pied de cet employé-là était justifiée. Par exemple, je pouvais redonner les tâches de l'employé à un autre employé qui, lui, devait rester au travail parce qu'il occupe, par exemple, un poste clé dans mon entreprise. Donc, si on est capable d'expliquer notre choix de mettre à pied cet employé-là plutôt qu'un autre et que c'est basé sur un motif raisonnable et non un prétexte, alors on passe le test, il n'y a pas de problème.
Maintenant, si on doit vraiment réduire nos dépenses de masse salariale et qu'on n'arrive plus, explique-nous là, quelles sont les options et comment on s'y prend.
Oui, ben c'est sûr qu'on va devoir d'abord évaluer du mieux qu'on peut nos besoins et la charge de travail qui reste. Et puis là, ben une fois que c'est fait, on peut envisager différentes options. Ben peut-être la moins connue, c'est probablement la possibilité de faire ce qu'on appelle du travail partagé avec nos employés. Alors, c'est un programme qui permet aux employeurs là, de diminuer les heures d'un employé entre 10 et 60 et qui donne droit à l'employé à de l'assurance-emploi. Là, le programme a été bonifié la semaine dernière et on compense maintenant pour une période qui peut aller jusqu'à 76 semaines. Avant, c'était 38. Et évidemment, les heures de travail qui sont perdues sont payées au même taux que l'assurance-emploi, soit 55 % du salaire. Le délai d'attente pour l'employé pour avoir accès à cette prestation-là a été aboli dans les mesures, donc on est éligible dès le jour 1. Évidemment, on peut se renseigner également. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral aujourd'hui pour les PME qui veulent tenter de garder leurs employés au travail. On nous annonce des subventions. Ça pourrait peut-être influencer là, les décisions des entreprises. Si ça convient pas à notre situation, ben évidemment, là, on peut penser à faire des mises à pied temporaires. Si vous êtes un employeur syndiqué, vous devez regarder les clauses des conventions collectives qui s'appliquent à vous pour vous assurer qu'il n'y aurait pas des clauses qui sont plus généreuses que celles qui sont prévues à la loi sur les normes du travail. Pour ce qui est des employeurs non syndiqués, alors là, les exigences vont changer dépendamment de la longueur de la mise à pied. Pour une mise à pied dont la durée prévue est de moins de 6 mois, à ce moment-là, on n'est pas tenu de donner un avis de cessation d'emploi aux employés. Donc, on les avise de leur dernière journée de travail et on émet un relevé d'emploi. Donc, le relevé d'emploi, ce n'est pas à confondre avec l'avis de cessation d'emploi. C'est le relevé qui atteste, entre autres, du nombre d'heures assurables qui est fait par un employé pour ses prestations d'assurance chômage, donc oui, ses prestations d'assurance emploi. Si on parle de mise à pied d'une durée prévue de plus de 6 mois, alors là, c'est différent. On doit donner un avis écrit préalable aux employés qui comptent plus de 3 mois de service continu. Donc, la durée de l'avis de cessation d'emploi, entre autres, va varier de 1 semaine à 8 semaines en fonction de la durée du service de l'employé. Il y a de très bonnes brochures explicatives qui sont disponibles sur le site de la CNESST qui peuvent vraiment orienter les employeurs sur ce point-là. Si on ne peut pas donner l'avis dans les délais, donc on doit à ce moment-là verser une indemnité compensatrice qui doit égaler le salaire que l'employé aurait normalement gagné durant la période de l'avis. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je devais donner un préavis de 6 semaines, mais que je ferme mes portes dès maintenant, parce que, bon, évidemment, mon employé ne peut plus travailler son préavis à ce moment-là, oui, je dois lui verser l'équivalent de son salaire pour la période de 6 semaines. Et l'indemnité converse ne tient pas compte des heures en temps supplémentaire. Et on doit également, évidemment, émettre un relevé d'emploi.
OK. Tu as parlé de l'assurance emploi tantôt. Là, c'est un peu mélangeant avec la crise actuelle parce que le délai d'attente est éliminé pour certains travailleurs, mais pas pour d'autres, si je comprends bien.
Oui, exactement. Donc, il y a encore un délai d'attente de 7 jours dans le cas des licenciements ou de mise à pied, en tout cas de ce que je comprends des annonces actuelles du gouvernement. On a enlevé du côté du gouvernement fédéral le délai d'attente seulement pour les employés qui sont mis en quarantaine là, ou qui sont infectés. Donc, c'est vraiment pour le volet médical de l'assurance emploi. On espérait peut-être une annonce à ce sujet-là aujourd'hui, mais en fait, on répète là, la même chose qui avait déjà été annoncée le 11 mars. Alors, rien de nouveau. Si on est victime là, en ce moment d'une infection, oui, on va voir le délai se lever. Sinon, ben, il est maintenu.
Si on est dans un scénario plus pessimiste, Nadine, et qu'on doit penser à faire des coupures de postes permanentes, là, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui se disent « Est-ce qu'on va être capable de se relever de ça? » Qu'est-ce que tu veux leur dire à ces gens-là?
Ouais, évidemment, on leur souhaite pas, Louis-Philippe, là, mais si c'est le cas, ben on doit baser nos choix quand on va regarder quels salariés on va licencier sur des critères qui sont objectifs, comme par exemple l'ancienneté, la polyvalence d'employés, ses compétences, etc. À ce moment-là, on va aussi donner l'avis de cessation d'emploi aux mêmes conditions que celles dont on a discuté tout à l'heure. Puis, on va verser toutes les sommes qui sont dues à l'employé au moment du licenciement, comme son salaire, ses heures supplémentaires, son indemnité de vacances. Par contre, ce qui est important, c'est que si, malheureusement, on doit licencier 10 personnes ou plus dans une période de 2 mois consécutifs, là, à ce moment-là, les règles sont différentes. On va devoir produire un avis de licenciement collectif qui est destiné notamment à être affiché là, sur les lieux du travail, mais qui doit surtout être envoyé au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et à la CNESST. Il y a des exceptions, alors c'est très important de bien valider nos obligations avant de procéder. Le délai qui est exigé pour remettre un avis de licenciement collectif va dépendre du nombre d'employés qui est visé par notre licenciement. Et encore une fois, vous pouvez trouver les détails sur le site de la CNESST. C'est quand même assez bien expliqué et ça donne en tout cas les indications de base aux employeurs à ce sujet-là. De la même manière que pour l'avis de cessation d'emploi, si vous ne pouvez pas remettre l'avis de licenciement collectif dans les délais qui sont prévus, vous devez verser aux salariés une indemnité compensatrice.
Est-ce qu'on doit verser l'avis de licenciement collectif en plus de l'avis de cessation d'emploi?
Non, bonne question, Louis-Philippe. C'est en fait l'indemnité qui est liée à l'avis de cessation d'emploi et l'indemnité qui est liée à l'avis de licenciement collectif ne sont pas cumulatifs. En fait, l'employé a droit à l'indemnité la plus élevée des deux, donc la plus généreuse des deux.
Bon. Là, parlons des employeurs qui, eux, là, réussissent à continuer leurs activités pour l'instant, au moment où on se parle. C'est pas évident, là, parce qu'on est dans l'inconnu, mais à quoi doivent-ils s'attendre au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, Nadine?
Ben écoute, évidemment, le Philippe, là, ce qui les guette, c'est d'avoir des gens pour travailler, hein, parce que suite à l'annonce de la fermeture des écoles, des garderies, il y a plusieurs employés qui ont déjà sollicité des congés auprès de leurs employeurs, ce qui est normal. Et puis, bon, on veut pas être prophète de malheur, là, mais si on s'attend au pire, là, on voit déjà des prolongations, là, des fermetures dans d'autres provinces. Alors, il faut être réaliste à ce niveau-là. Et en vertu de la loi sur les normes du travail, un employé peut s'absenter du travail pendant 10 journées, dont 2 sont payées, pour remplir des obligations qui sont reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation d'un enfant, de l'enfant de son conjoint, ou encore en raison de l'état de santé d'un parent. Et là, le terme « parent », c'est très large. Ça comprend, entre autres, le conjoint, l'enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié, de l'employé ou de son conjoint. Donc, évidemment, là, ça s'applique, c'est la norme de base. Si votre organisation est syndiquée, il est possible que votre convention collective prévoie des conditions plus généreuses pour vos employés. Mais pour les milieux non syndiqués, il faut savoir que même si la loi sur les normes prévoit 8 journées sans solde, le gouvernement vient d'annoncer de l'aide financière pour les employés qui restent à la maison pour des obligations familiales. Alors, on peut aussi considérer de permettre la prise de congés de vacances ou d'autres banques de congés qui sont accumulées pour accommoder nos employés autant qu'on peut.
Bon, sur une courte période, on peut vivre avec ça, mais là, tu le disais, la fermeture des écoles pourrait très bien se prolonger. Les cas de personnes malades risquent d'augmenter. Si on se fie à ce qui se passe là, dans plusieurs autres pays présentement, ça va être de moins en moins évident là, peut-être d'avoir de la main-d'œuvre pour certains employeurs.
Oui, puis ça, c'est crucial, Louis-Philippe. Là. Les employeurs doivent se préparer à une augmentation de leur absentéisme, autant pour cause de maladie que d'obligations familiales. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Et ça pourrait peut-être devenir tentant, là, en désespoir de cause, pour certains employeurs de fermer les yeux sur certaines situations pour éviter de perdre un employé. Par exemple, un employé qui tousse ou qui a été en contact avec une personne infectée, etc. Cet employé-là peut devenir un risque pour la santé et la sécurité des autres employés. Et il faut se rappeler, Louis-Philippe, qu'un employeur qui sait qu'il expose un employé à un risque réel pour sa santé et sa sécurité et qui n'agit pas peut être poursuivi au criminel et même faire de la prison pour sa négligence.
Donc, d'ailleurs, on n'y est pas avec
collègue,
ça, là. Oui.
Non, absolument pas. D'ailleurs, ma collègue Marc-Claude Perrault avait fait une chronique à ton émission il y a quelques mois sur ce sujet-là.
Oui.
Alors, c'est pas le temps de fermer les yeux sur un risque réel. Il faut être proactif, même si parfois, ça peut nous enlever des ressources sur lesquelles on comptait pour nos opérations.
Bien, merci beaucoup pour les informations et les bons conseils. Bonne chance dans tout ça. On se reparle bientôt.
Merci, Louis-Philippe.
Merci. Voilà pour Nadine Bigras de la firme d'avocats RPGL.